en mettant des mots, en l'empêchant de regarder la réalité. Et c'est très vrai que le mot, c'est très utile. Quand on apprend une nouvelle langue, on apprend les mots. C'est très utile, les mots. Mais ça n'éveille pas l'intelligence. Le mot remplace l'intelligence de la chose. Quand le gosse pose la question, mais qu'est-ce que c'est qu'une locomotive? La mère ne sait plus. La mère ne sait plus. Qu'est-ce que c'est qu'une locomotive? Il faut connaître un tout petit peu ce que c'est. Qu'est-ce que c'est qu'une auto? Là encore, ça va. Parce que vous pouvez lever le galop et puis vous montrer le moteur. Enfin, c'est quelque chose qui marche tout seul. Et comment? Alors il pose comment? Mais pourquoi comment? Les deux grandes interrogations. L'intelligence interroge. Et c'est Merleau-Ponty qui dit, l'idéaliste n'interroge. Seul celui qui cherche la réalité interroge tout le temps. Parce que la réalité est plus riche que tout ce que vous connaissez de cette réalité. L'homme, dans sa complexité, est plus riche que ce que dit le biologiste, le médecin, le théologien, le philosophe. Existant, à mon ami, et je cherche à le connaître. Il est plus que ce que je connais. Mon intelligence est relative à la réalité. Et mon intelligence dépend de la réalité. Je sais très bien qu'en connaissant, j'abstrais. C'est-à-dire, en connaissant, je jette du lest. J'abstrais. Je ne saisis qu'un aspect. Et c'est pour ça que pour saisir la réalité, j'ai comme deux grandes pistes fondamentales qu'on retrouve dans toutes les intelligences. Vous savez, quand vous voulez regarder une très belle statue, vous aimez d'avoir des points de vue différents. Quand vous voulez regarder une magnifique chapelle, une magnifique église, ici, vous prenez des points de vue différents. Vous savez qu'il y a un point de vue merveilleux. Et tous les connaisseurs disent, venez là et regardez. Puis il y a la vision première. Puis maintenant, il y a une vision aérienne. Et la vision aérienne, c'est quelque chose. C'est pas rien. Voler au-dessus du Sahara, ça vous donne une vision aérienne du Sahara. C'est très belle, synthétique, merveilleuse, étonnante. Quand vous êtes dedans, petite vision. Il y a des visions différentes. Parce que mon intelligence ne peut pas être exhaustive. Si mon intelligence était exhaustive, je regarderais une seule. J'avalerais tout. Oh, j'avale pas tout. J'ai des points de vue différents. Phénomène de l'abstraction. C'est curieux. Bien, il y a deux grands regards. Je saisis les qualités d'une chose et par le jugement, je saisis l'existence de cette chose. Je saisis l'action, les actions, les opérations de cette chose. Je saisis la chose dans toute sa richesse. Et de l'autre côté, au contraire, je saisis telle détermination, telle couleur, telle dimension. C'est curieux. Mon intelligence a cette faculté de pouvoir regarder dans la simplicité. Mon intelligence est simple, elle juge la simplicité. Et en même temps, de regarder toute la complexité. Et si vous simplifiez trop, on vous dira, vous simplifiez, c'est pas la réalité. Vous schématisez, c'est pas la réalité. Parce que vous êtes capable de vous corriger. L'intelligence est capable de se corriger. C'est-à-dire, ce que je dis, oui, c'est vrai, mais ce n'est que partiellement.
pas jusque-là. On va pas jusque ce point de vue fondamental de regarder les deux grandes activités de l'intelligence. Elle appréhende dans la simplicité et elle juge. Elle est capable d'affirmer et de nier. Et l'intelligence est capable de nier. Et en niant, elle se replie sur elle-même. Si je regarde toute cette diversité d'intelligence, cette diversité de mes opérations. Parce que, à partir de là, je pourrais voir comment l'intelligence peut devenir une intelligence scientifique et une intelligence contemplative. Il y a deux voies. Et c'est tout le temps ce primat de la simplicité, ce primat de la complexité. Le savant aime la complexité. Le contemplatif aime la simplicité. Mais il y a deux spiritualités. Il y a la spiritualité du boulot et la spiritualité du cèdre. Tout à fait différent. Je vais monter le plus haut possible. Pour ça, il faut me simplifier. Je creuse, je creuse. Ça, c'est le contemplatif. Et puis, la spiritualité de celui qui veut tout. Alors, il accepte que ce soit lourd. L'eau, il veut tout. Mais on voit tout. Mon intelligence a la possibilité de se développer de cette manière. Alors elle s'est développée surtout dans un sens, c'est sûr. Et notre intelligence se développera surtout dans un autre sens. Et quand je me rencontrerai avec quelqu'un qui est intelligent d'une autre manière que moi, au début, on se heurte. Je vous ai un certain temps réfléchi, mais non. Nous avons deux points de vue différents. Vous avez tel point de vue, moi j'ai l'autre. Je dis, c'est vrai. Donc on pourrait se compléter. Ah, ça, c'est d'être très intelligent. C'est de respecter l'autre. Et de respecter qu'il y a d'autres points de vue que le sien. Et de comprendre que d'autres points de vue peuvent nous aider et nous compléter. Oui, comme l'intelligence, elle ne peut pas se définir. C'est quelque chose qui est en moi. La pointe la plus spirituelle de mon âme spirituelle qui me permet d'aller très loin, de connaître les autres, la personne humaine, de me connaître et en dernier lieu de me poser la question, existe-t-il un être premier? Et mon intelligence, dans la mesure où avec patience elle accepte de voir l'importance de cette question, essaiera de la résoudre par des voies diverses. Parce qu'il s'agit de monter très haut, et pour monter très haut et descendre très bas, c'est parce que ça revient au même, monter très haut et descendre très bas, puisque je suis dans quelque chose de spirituel, donc les dimensions très haut et très bas sont métaphoriques, et donc je peux les employer l'une et l'autre. Elles ne s'opposent pas. Il s'agit de monter très haut ou descendre très bas pour découvrir qu'au-delà de ce qu'il y a de plus intime en moi, il existe une source d'où je viens, d'où je suis. Et cette source, c'est ce que les traditions religieuses appellent Dieu, ce que le philosophe appelle l'acte pur. Ce que le philosophe appelle l'être premier, l'être transcendant, celui qui est, celui qui dans la Bible se nomme Je suis. Il n'y a que Dieu qui peut dire Je suis. C'est l'intelligence qui peut saisir cela dans toute sa forme. Sûr de ne pas tomber verra ça la fois prochaine. Oui, vous avez raison, c'est tout à fait d'accord. On verra ça la fois prochaine. Puisque la fois prochaine, c'est justement le point de vue du cœur et sa capacité d'aimer. Et alors là, le cœur va assumer l'intelligence. Vous voyez, ce que je nommais tout à l'heure, simplement comme référence, la connaissance affective, la connaissance du cœur, la perspicacité d'intelligence, qui est capitale. Qui est capitale. Pour le philosophe aussi. Si le philosophe reste un homme. Penser l'homme en soi. Penser l'humanité. Penser la liberté. Vous pensez des abstractions. Et alors vous tombez dans l'idéologie. Les idéologies n'interrogent plus, se développent pour elles-mêmes.
Est-ce qu'on peut contempler ?
Non, il n'y a plus de contemplation. C'est lui. Tout vient de lui. Alors on a une pensée dialectique. Et non plus de pensée contemplative. C'est la grosse différence. La dialectique hegelienne fait que, indéfiniment,
ça tourne.
Oui, ça tourne. Et je compare, c'est pas très. Mais j'aime ça, la machine. Vous voyez, le gosse qui tourne. On a tous vu ça, tu vois, dans le temps. On a tous vu le gosse qui tourne, elle le très sérieusement. Puis ça m'a dit, mais regarde, il n'y a plus rien. Ça fait rien, ça l'amuse. C'est plus facile du reste. Parce que quand il y a du café dedans, c'est un peu plus lourd.
Il semble que vous apportiez une sorte de solution de continuité entre raison et intelligence. Est-ce que l'intelligence, plutôt la raison, n'est pas au début justement un instrument pour décortiquer peu à peu la vérité? Et si on en use d'une manière juste, avec un cœur droit, eh bien, elle raisonne d'une manière raisonnable, elle introduit à l'intelligence.
Non ? Oui, c'est sûr, il n'y a pas de séparation et d'opposition. J'ai simplement distingué. Vous voyez ? Et j'ai distingué exprès, peut-être fortement, pour qu'on ne confonde pas. Aujourd'hui, tout le monde confond. Alors, je sais, il faut donner un grand coup de hache pour bien comprendre. L'intelligence, elle est première, elle est dernière. Et la raison, c'est le mode humain de raisonner. Vous voyez ? C'est le mode humain de l'intelligence. Dieu ne raisonne pas. L'ange ne raisonne pas. Dieu est intelligent et l'ange est intelligent. Et je rejoins Dieu, non pas par mes raisonnements, mais par mon intelligence. Je ne peux pas le rejoindre, et par une intelligence du cœur.
Mais si on n'abuse pas de la raison
raisonnable,
eh bien, elle conduit à la raison.
Mais de fait, historiquement parlant, je vois que très vite, les philosophes ont confondu. Et ils ont tout de suite arrêté à la raison. Et sont mis à identifier dès le XIVe siècle. Dès le XIVe siècle, les théologiens ont confondu métaphysique et logique. Parce qu'ils ont confondu l'intelligence, l'intellectus, et la raison raisonnante. Dès le XIVe siècle. Ah, vous voyez tout ce qu'on a à remonter. C'est la même confusion qu'entre autorité et pouvoir. Dès le XIVe siècle, les théologiens ont confondu autorité et pouvoir. Il y a quelques années, j'avais une conférence à faire sur l'autorité. J'aurais voulu la préparer, puis je n'ai pas eu le temps de la préparer. Ça m'arrive de temps en temps. plus maintenant, puisqu'on a un acquis. Mais quand on est jeune professeur, il faut quand même préparer ses conférences en temps d'avance. Alors, n'ayant pas le temps, qu'est-ce que je fais? Je me précipite sur le dictionnaire de théologie catholique, qui est un résumé merveilleux, qui vous donne des références. Je cherche autorité. Aucun article. Je cherche pouvoir. Tout. Ah, ça m'a scandalisé. C'est affolant, ça. À partir de là, j'ai recherché à quel moment la théologie avait confondu autorité et pouvoir. Et j'ai vu que c'était un théologien du XIVe siècle, Occa. Il a confondu autorité. Et pourquoi? Parce que l'autorité, c'est la finalité, le pouvoir, c'est l'efficacité. Regardez le gendarme. Hein? Surtout dans des routes comme maintenant. Regardez le gendarme, hein? Il a une autorité, c'est évident. Il a surtout un pouvoir. Si le gendarme ne donnait jamais d'amende, combien respecterait l'autorité du gendarme? Je respecte l'autorité du gendarme parce qu'il donne des amendes. Ça, c'est son pouvoir. Et l'autorité, c'est de lui dire, attention, vous ne respectez pas le code. Ça, c'est l'autorité. Vous ne respectez pas le code. Ça devrait suffire. Oh, ça ne suffit pas. Parce qu'on est toujours des gosses. Surtout quand on est au volant. Alors, on a besoin de recevoir le coup de fouet ou le coup de la règle sur les doigts. Alors, l'amende. Mais vous voyez, c'est terrible pour un théologien de confondre autorité et pouvoir. Dieu a une grande autorité. Le démon n'a aucune autorité. Il a un grand pouvoir. Regardez dans les chefs d'État, leur autorité, leur pouvoir. Hein? C'est intéressant. L'autorité repose sur la compétence et la personne. Et le pouvoir repose sur la délégation. Par rapport à quelqu'un qui a une grande autorité, il vous délègue un pouvoir. On confond ça. Même je dirais, dans les choses, dans les usines, on confond autorité et pouvoir. L'autorité, c'est personnel. Mais le pouvoir, ça se partage, le pouvoir. C'est ici l'efficacité. Oh, on tient les deux. Oh là là, comme si on vous arrachait l'autorité parce qu'on vous arrache le pouvoir. Jésus a une grande autorité. Il n'a jamais exercé le pouvoir. Parce qu'il a exercé une autorité en pauvre. Et vous voyez, il y a des parallélismes entre intelligence et raison, autorité et pouvoir. Je m'arrête parce qu'on continuera encore une heure. Je résume en quelques mots ce que la dernière fois nous avions essayé ensemble de comprendre. Et je dis bien ensemble, étant donné qu'il y a deux conférences, n'hésitez pas, dans la première conférence, s'il y a des questions, de les écrire, et j'essaierai de répondre au début de la seconde. Je crois à la fois prochaine. Oui, mais deux aujourd'hui. Pas une troisième. Une conférence ici de 2h30 à 3h30. Et puis alors, ensuite, avec un petit moment d'arrêt, pour essayer de répondre aux questions, pour que ce soit une réflexion philosophique, puisque c'est ce que nous faisons, tout en étant chrétien ou dans un climat chrétien, l'intelligence doit se développer dans la recherche de la vérité. Vous voyez, le Saint-Père, ici, dans ce grand pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, a repris ce thème qu'il aime beaucoup. Qu'il s'agit d'être consacré dans la vérité. Qu'on n'a pas le droit, étant donné quand même que nous sommes tous intelligents,
On n'a pas le droit d'abandonner cette recherche de la vérité, qui est plus importante aujourd'hui que jamais, étant donné que nous vivons dans un milieu dans lequel se transmettent beaucoup d'idées très confuses, où il n'y a pas constamment une recherche de la vérité. On est avec des quantités d'informations, c'est vrai, je crois qu'on n'en a jamais eu autant. Le nombre de revues qu'on peut recevoir, le nombre d'informations qu'on peut recevoir par la télévision, par la TSF, et au milieu de tout cela, les brebis du Christ que nous sommes, tous, les brebis du Christ ne savent pas toujours quelle est la route qu'ils doivent prendre, l'orientation. Il y a une très grande souplesse dans la recherche de la vérité, mais la vérité en définitive, surtout pour un croyant, pour un chrétien, la vérité c'est Jésus. Je suis la voie, la vérité, la vie. Et il est la vérité. Mais nous ne découvrons pleinement cette vérité que si nous-mêmes, nous avons eu le souci, par tous les moyens, de rechercher ce qu'est la vérité. Le thème de ces 3 journées, une est déjà passée, nous sommes la seconde, et il y aura la troisième, c'est sur la personne humaine, pour comprendre toute la richesse de l'homme et de la personne humaine. Et nous avons vu la dernière fois le point de vue, justement, de l'intelligence dans sa recherche de vérité. Et j'avais essayé de montrer que la Grèce, notre culture chrétienne, s'enracine dans la Grèce. On ne peut pas nier ça. Plus ou moins, mais elle s'enracine dans la culture grecque. Et la philosophie occidentale s'enracine dans la philosophie grecque. Il y a eu une éclosion très étonnante à Athènes. Socrate, Platon, Aristote, c'est quand même des hommes de très grande taille. On aimera beaucoup les retrouver, bah, plus tard. Petit dialogue avec Socrate, ça serait intéressant quand même. Petit dialogue avec Platon, ça m'intéresserait beaucoup aussi. Quant à Aristote, on le saluera comme un ami. Parce que pour saint Thomas, tous ceux qui recherchent la vérité sont nos amis. J'aime beaucoup ça. Tous ceux qui recherchent la vérité sont nos amis. On fait route avec eux. Un petit bout de route. Quelquefois pas beaucoup, mais à un changement de route, déviation, ils prendront peut-être cette route-là. Mais quand même, on fait un bout de route ensemble. C'est déjà beaucoup. On s'est donné la main. Pendant un certain temps, on a cheminé ensemble. Oui, les disciples d'Emmaüs. Avec Jésus. Jésus a cheminé avec eux un certain temps. Puis Jésus a montré qu'il allait plus loin qu'eux. Et là, il a disparu à leur regard. Mais il y a eu ce cheminement. Cette première conférence, c'était donc pour essayer de comprendre comment l'intelligence est distincte, pas séparée, de la raison. Nous raisonnons beaucoup. Et quelquefois, on a beaucoup de difficultés de discerner avec intelligence. L'intelligence discerne. L'intelligence juge. L'intelligence contemple. Le raisonnement ne contemple pas. Et la raison ne contemple pas. Elle discute. Et on discute quelquefois indéfiniment, oubliant pourquoi on discute. On discute pour chercher la vérité. Mais la vérité, c'est l'intelligence qui l'a saisie. La vérité, c'est la qualité d'intelligence. Cette distinction que saint Thomas maintient, qui vient d'Aristote, que Platon n'avait pas fait. Il faut bien le reconnaître. Parce que Platon, il est dans la dialectique. Et c'est le grand mal de la dialectique. Dans notre monde d'aujourd'hui, nous avons la dialectique hégélienne. Et la dialectique hégélienne, elle gouverne tout. Même les théologiens. Hélas. Je dis hélas parce que je crois que c'est dangereux. Et dans la dialectique hégélienne, on ne fait plus la distinction d'intelligence et raison. C'est une mixture des deux. C'est pour ça que la dialectique n'est pas contemplative. Et la dialectique, elle continue tout le temps, indéfiniment. Ce n'est pas Platon, ce n'est pas Hegel le premier qui fait cette confusion, c'est Platon. Et dans notre philosophie européenne, il vient de paraître un livre sur l'Europe philosophique de Jean Brun. C'est intéressant de voir l'Europe philosophique. Il y a l'Europe chrétienne, l'Europe artistique, l'Europe monastique. C'est plus profond encore que l'Europe philosophique. Parce que l'Europe philosophique, il montre les grands théologiens. Saint Thomas fait partie de l'Europe. Donc, je peux dresser le fanion. Aristote fait partie de l'Europe. Platon aussi. Socrate aussi. Ce sont nos ancêtres de l'Europe. Des ancêtres très dignes. Parce que là, on voit quand même, et tout l'art grec, quelque chose de très grand. Quel est le premier qui, après les théologiens, a confondu l'intelligence et la raison? C'est Descartes. Il a parlé de l'entendement. Et l'entendement, on ne distingue plus intelligence et raison. Donc la dernière fois, j'ai essayé surtout de distinguer cela. Aujourd'hui, toujours pour mieux comprendre ce qu'est la personne humaine, nous allons regarder cette autre orientation très importante, plus facile à comprendre, parce que plus proche de notre expérience, l'aspect de l'affectivité, au très grand sens du mot, l'aspect du cœur, l'aspect de l'amour spirituel. Et je vais retrouver avec vous une même distinction que saint Thomas fait à la suite d'Aristote et que Descartes a laissé tomber. Pour saint Thomas, la volonté, c'est premièrement une capacité pour aimer. Et c'est pour ça que saint Augustin dit cette parole que quelquefois nous avons beaucoup de peine à comprendre. Celui qui veut aimer, aime. C'est un petit peu, voyez, la grande phrase que je voudrais creuser. Celui qui veut aimer, aime. Saint Thomas le reprend. Saint Bernard dit la même chose. Puisqu'il faut saluer Saint Bernard ici. Et quand il s'agit de l'amour, on ne peut pas ne pas parler de Saint Bernard. Saint Bernard a dit certaines choses extraordinaires que Saint Thomas a repris, le reste. Quand Saint Bernard dit, et on reverra ça tout à l'heure, la mesure de l'amour, c'est l'amour. C'est très fort, ça. C'est une de ces affirmations sur lesquelles il faut aussi revenir constamment. La mesure de l'amour, c'est l'amour. C'est très grand. Qu'est-ce qu'a fait Descartes? Descartes a considéré que la volonté, c'était uniquement une capacité d'efficacité, d'efficience. Et il a rejeté l'amour au niveau de la passion et de l'instinct. Vous voyez, tout Freud est là. Très curieux. Je disais une fois à un médecin freudien que je connaissais très bien, qui habitait Paris et qui faisait une analyse très honnête. Je disais, vous êtes cartésienne, puisque c'était une femme remarquable. Elle dit, mais je ne connais pas Descartes. Vous l'avez respiré. Elle dit, pourquoi vous me dites ça? Parce que vous faites la distinction de Descartes. Que pour vous, un homme de volonté ou une femme de volonté, c'est une femme efficace. Et l'amour, presque un sentiment. Une question qui passe, c'est la volonté. On voit très bien qu'il y a eu une certaine éducation chrétienne qui s'est faite très fort dans ce sens-là. Je suis un ancien élève des pères jésuites. J'étais 8 ans pensionnaire. Je connais un peu le sérail. Et je vois très bien ce que c'est. Heureusement que j'avais un oncle dominicain, le père de Haut, qui me faisait un contrepoids magnifique. Et puis j'avais des sœurs bénédictines. Alors à ce moment-là, ça faisait l'autre contrepoids. Mais c'est vrai, le stoïcisme qui est né en Grèce ramène la volonté à l'efficacité. Les maîtres de Descartes étaient suarésiens de la compagnie. Vous voyez, je dis ça, c'est pas du tout pour attaquer les pères jésuites que j'aime, mais c'est pour montrer comment en France, c'est là où nous sommes, en Europe, où les jésuites ont joué un rôle extrêmement important. Avant les jésuites, c'était les moines. Et puis ensuite, c'était cette grande éclosion. Les moines étaient des écoles d'éducation, des lieux d'éducation, des lieux de formation. Puis ensuite, il y a eu, de fait, il faut bien le reconnaître, des collèges. Et qu'est-ce qui dominait dans cette perspective? C'était la volonté et l'effort de volonté. Si on était des hommes de volonté, on était des hommes efficaces. Ça pouvait aller. La question affectivité, il fallait faire attention. Les amitiés particulières, on sait ce que ça voulait dire. Vous voyez, le petit slogan très simple, rarement seul, jamais deux, toujours trois. Pour les psychologues, c'est très significatif. Et c'est très... Ça signifie quelque chose, ça. Je crois qu'on doit en prendre conscience aujourd'hui. Parce qu'on sent très bien qu'on est devant un nouveau tournant. Et le pape exprime de façon très admirable, ça. Parce qu'il le ressent. C'est un slave. Il n'a pas subi l'influence de Descartes. Il a subi d'autres influences, mais pas celle de Descartes. Descartes s'est arrêté aux slaves, grâce à Dieu. Et les slaves ont gardé quelque chose de beaucoup plus simple. On peut dire que Bergson, avec l'élan vital, a essayé de corriger ça. On voit qu'il y avait cette spontanéité qui allait beaucoup plus loin. Tout l'aspect volontaire. Et je crois qu'il est très important de nous rappeler la distinction que Pascal fait. Les hommes de cœur et puis la volonté. Et vous retrouvez la même chose. Et dans le langage courant, dans le langage d'aujourd'hui, constamment, quand on parle de tel ou tel, aussi bien des hommes que des femmes, dire, celui-là, il a un cœur d'or. C'est merveilleux. Il comprend tout. Mais il lui manque un tout petit peu de volonté. Il manque un peu de volonté. C'est pas très efficace. Ça manque d'efficacité. Mais il a un cœur merveilleux. Je vous dis qu'inverse. Cet homme, il a une efficacité prodigieuse. C'est encore plus terrible pour une femme. Cette femme, elle a une efficacité prodigieuse. Mais vraiment, son cœur, on ne sait pas très bien où il est. C'est difficile. Il n'y a plus aucun sentiment. Tout est parti du côté de l'efficacité. Nous sommes une culture, aujourd'hui, d'efficacité. J'aime de citer cette parole qui m'a tellement frappé, moi. C'était d'un psychanalyste freudien, converti, un Canadien. Il est mort maintenant. Il était médecin, première génération de Freud. Mais converti, et donc, il avait passé de Freud à Jung. Et on l'avait invité à Londres avec d'autres médecins. Ils étaient sept pour étudier le cas d'enfants criminels de 7 ans à 14 ans. Et ils avaient vu durant leur année 400 cas. Quand il est revenu de Londres, on se connaissait bien, je crois qu'on a passé presque toute la nuit ensemble. Il avait besoin de dire tout ce qu'il avait vu. Mais je vous le dis pas, c'est pas la peine. C'était affolant. Il y a des choses que j'ai retenues. Tellement, c'était affolant. Ces médecins se réunissaient toutes les semaines, des médecins sérieux, des médecins qui voulaient faire leur travail avec le plus de générosité possible. Ils m'ont dit du reste qu'il y avait des médecins de tous les pays qui étaient passés. Parce qu'on savait, jusqu'à la Russie, les soviets. Et il m'avait dit à ce moment-là, j'avais une envie folle de lui demander, est-ce que vous avez le même phénomène chez vous? J'ai rien dit, mais j'avais envie de lui poser la question, est-ce que aussi chez vous, vous voyez des enfants criminels de 7 ans à 14 ans? Des enfants qui ont tué, des enfants qui ont blessé leurs frères, leurs pères, leurs mères, leurs camarades. Ces médecins se réunissant toutes les semaines ont essayé de comprendre pourquoi. En psychanalyste, ils faisaient ça. Puis, en définitive, ils ont conclu ce qu'on aurait pu conclure tout de suite. Ces enfants ont manqué d'amour. Bon, on sait bien que lorsqu'on manque d'amour, on a un irascible particulièrement véhément. Ben, c'est bien connu. Vous voyez, quand un homme rentre chez lui après un travail très dur, où il a dû lutter toute la journée, où il a des échecs, si son épouse n'est pas très accueillante, il va l'attraper pour n'importe quoi. Ça, c'est une évidence. Tandis que si l'épouse le reçoit avec beaucoup d'amour, lui donne son petit repas qu'il aime le mieux, avec toute la douceur et la délicatesse, ah, ça apaisera. Une espèce de balancement entre le concupiscible et l'irascible, bien connu. On n'a rien inventé, vous savez. C'est très vieux, ça. Et les Grecs le disaient, et Aristote le dit, et saint Thomas le reprend. Ces enfants ont manqué d'amour. Ils ont ajouté, il manque d'amour dans le monde d'aujourd'hui. Prenez une telle parole, ça ne peut pas vous laisser indifférent. Quand on lit dans l'Évangile cette parole de Jésus, je suis venu apporter le feu, et comme je voudrais qu'il brûle tout, et comme je voudrais qu'il soit bientôt allumé. Le feu, c'est l'amour. Il manque d'amour dans les familles. Et les enfants n'ont pas eu l'oxygène qu'ils auraient dû avoir. On ne peut pas dire qu'il manque d'efficacité dans notre monde. Non. Il y a une efficacité prodigieuse depuis Descartes. Mais il manque d'amour. On sait très bien. Ou c'est la jouissance et ce n'est pas l'amour. Ou c'est le désir de dominer et ce n'est pas l'amour. Ou c'est l'efficacité. Les trois grandes forces de notre monde d'aujourd'hui. La jouissance, la domination et puis l'efficacité. Et les gens cherchent leur bonheur dans ces trois domaines. Et ça empêche de découvrir ce qu'est le véritable amour. L'efficacité passée devant. La jouissance, parce que l'amour n'est qu'une question de sentiment. Profitons-en. Et puis la domination, parce que quand il n'y a plus d'amour, on essaie de se rattraper en dominant. Genre de tyrannie, quoi. Tyrannie à la famille, tyrannie politique, tyrannie dans n'importe quel groupe de travail. C'est pour ça que c'est important pour nous d'essayer de reprendre les liens profonds entre ce qu'on peut appeler le cœur profond, notre volonté et notre intelligence. On a distingué, et cette distinction est devenue une séparation, et presque une opposition, comme si le développement de l'intelligence empêchait le développement de l'amour. Parce qu'on a confondu intelligence et raison, alors on aboutit à ça. Et le jour où l'intelligence n'est plus là pour permettre à l'amour d'aller toujours plus loin, l'amour alors perd sa qualité propre et se rabat vers la jouissance, vers la tyrannie, vers l'efficacité. Très très important pour nous de comprendre ça. Alors si vous voulez, je pars de l'expérience, puisque toute notre philosophie est faite d'expérience. Quelle est la grande expérience de notre vie ? Constante. Une des expériences dominantes, c'est le choix d'un ami. Je crois que le choix amical, c'est quand même une grande expérience. Quelqu'un qui n'a jamais choisi dans sa vie un ami, c'est triste. Ah, il a peut-être échoué, mais il y a eu quand même le choix initial. Il y a eu un premier amour. Quelqu'un qui n'a jamais aimé dans sa vie, ça se rend compte de temps en temps, hélas. Je crois que celui-là, il faut essayer de lui donner ce qui est absolument nécessaire pour vivre, de lui donner justement cette possibilité de trouver quelqu'un en qui on a toute confiance. Parce que c'est ça, la première amitié qu'on a eue. Quand on était gosse, si on avait une mère qui était très bonne, compréhensible, c'est cette confiance dans notre mère. C'est le rôle de la mère. Le rôle de la mère, c'est d'éveiller l'amour. Il n'y a que la mère qui peut faire ça. Vous savez bien, tous les essais qu'on a faits, point de vue socialisation de l'éducation, on a bien vu là, en Israël, les premiers kibbutz, ceux qui étaient les plus forts, étaient religieux. Et quand j'y étais à ce moment-là, j'ai visité un kibbutz religieux. Ce qui m'intéressait le plus, c'est le problème de l'éducation. Bref, c'était secondaire. Je demandais comment on avait compris l'éducation. Et on m'a dit ça, tout simplement. Oh, les conflits familiaux. Maintenant, depuis Freud, les conflits familiaux, c'est terrible. Ça fait une perte de temps énorme. Alors, il faut les résoudre, radicalement. Comment les résoudre ? Retirer l'enfant à la famille. retirer l'enfant à sa mère. Permettre seulement à l'enfant de voir sa mère 2 heures. Je crois bien que c'était 2 heures par jour. Pas la nuit, 2 heures le soir. Et le reste du temps, il y a des éducatrices nationales qui étaient là pour élever l'enfant. Alors on a donné tout le topo, c'est inutile de vous le donner. Le fait. Et ça, je vous affirme, hein, je ne le tiens pas par des revues, je le tiens par une expérience directe d'avoir visité ce qui pousse religieux. 10 ans après, j'étais retourné en Israël plusieurs fois entre deux, mais 10 ans après, je veux de nouveau visiter un kibbutz religieux. C'était un Espagnol qui me faisait visiter. Très nettement, il était catholique, c'est sûr, en tant qu'Espagnol, et en même temps, juif. Et là-bas, le juif avait repris le dessus. Mais il était resté quand même catholique. Je voyais bien la manière dont il me regardait. Oui, tout de suite. Alors il présente tout. Une seule chose qu'il n'a pas parlé, l'éducation. Alors à la fin, il dit, est-ce qu'il y a des questions? Je dis, moi j'en ai une, si vous voulez bien. J'aimerais savoir, au point de vue de l'éducation, qu'est-ce que vous faites? Alors il a souri, en me regardant. Je dis, père, je comprends votre question. Et sa famille. Parce qu'on a compris que on ne pouvait pas éduquer de la même façon l'enfant que dans sa famille. Et donc il y avait un retard du côté affectif. Si bonnes qu'étaient les éducatrices, c'était jamais une mère. Et donc il y avait un retard affectif. Et ce retard affectif a fait un retard intellectuel. Très net. Alors que nous voulions au contraire gagner du temps. Et on en a perdu. Alors on est revenu. On est revenu parce que c'est toujours très étudié en Israël. Hein. Toujours très étudié. Il y a toujours des statistiques très nettes. Alors maintenant, on laisse l'enfant aux parents jusqu'à 14 ans. Je dis, tiens, 14 ans, pourquoi 14 ans? Oui, parce que 13-14 ans, vous savez bien, c'est le moment des luttes. Et des oppositions. Alors, on va supprimer ça. Alors, je dis simplement, je reviendrai dans 10 ans. Pour lui faire comprendre que peut-être ces luttes étaient nécessaires. Et qu'en famille, ces luttes, quelquefois, se passent mieux. C'est vrai, on ne peut grandir que quand on a surmonté soi-même certaines oppositions en les comprenant. Il y a une auto-éducation qui doit se faire en famille. À partir peut-être, oui, 13-14 ans, c'est vrai. Puis à ce moment-là, on a besoin d'amis. Parce que la mère ne suffit plus. Et le père, il faut du temps avant que le père devienne l'ami du fils. C'est pas 14 ans. C'est rare. Ça se peut, mais c'est pas toujours comme ça. Alors il faut des amitiés. Et ces amitiés, on doit pouvoir les choisir. Alors que si on enlève l'enfant à 14 ans, on va le plonger dans un milieu qu'il n'aura pas choisi. Et il y aura d'autres difficultés. C'est pour ça que je dis, dans 10 ans, on se reverra. Il y a 5 ans de ça. Bon, dans 5 ans, je retournerai. On voit, il y aura d'autres problèmes, sûrement. Mais je suis sûr, vous voyez, que le milieu naturel de la famille, je dis ça parce que c'est important, c'est le milieu de l'éclosion de l'amour. Une famille commence par un choix. Le choix le plus important de la vie, c'est le choix de la vocation pour un chrétien. Vocation religieuse, vocation sacerdotale ou le mariage. Et le mariage implique un choix amical. Il y a un choix libre. nécessaire pour que le mariage soit ce qu'il doit être. Le foyer repose sur une amitié entre époux et épouse, plus ou moins bien réussie, et qui doit progresser. Ce n'est pas le genre du mariage où l'amitié est la plus forte. Elle doit progresser. Et tout le foyer repose sur un amour. Parce que le foyer doit être un lieu qui permette l'éclosion de l'amour. La première éducation, c'est l'éducation du cœur. Et l'éducation du cœur doit continuer. Doit continuer tout le temps. Et c'est la mère. Et le père aussi. Et c'est la mère qui doit normalement éduquer le cœur de l'enfant. Donc, il y a là une éclosion première, capitale. Progressivement, s'achève dans un choix. Alors, qu'est-ce que c'est que le choix? Les retraites d'élection. On sait bien ce que c'est. Les retraites d'élection, les retraites de choix. On éprouve le besoin de se séparer, d'aller au désert pendant quelques jours pour mieux choisir. Chaque fois qu'il y a un choix important, si on le fait avec sérieux, on prend un peu de recul. Qu'implique un choix? Le choix de la vie. Ça implique un amour. Ça implique une très grande lucidité dans cet amour. Cet amour a des éléments multiples. La passion. Il faut appeler les choses par leur nom. La passion n'est pas mauvaise. Quelqu'un qui ne connaît pas la passion, c'est dommage. Elle demande d'être dominée, éduquée, mais la passion, c'est le terrain de l'éducation. Quand il n'y a pas de passion, c'est très difficile d'éduquer quelqu'un. Je ne sais pas ce qu'on fait, parce qu'on ne peut pas l'éduquer. La taille du père se fait à partir de la passion. Des passions. Les 11 passions de saint Thomas. N'oubliez pas ça. Saint Thomas est le théologien qui a étudié le plus les passions. Et de son temps, c'est la grande originalité de Saint Thomas. On l'oublie complètement, on ne le dit jamais, ça. Moi, ça m'intéresse beaucoup de voir que Saint Thomas a étudié de façon très particulière les passions. Et vous savez pourquoi? Pour montrer que dans le Christ, il y avait des passions. Et quand on regarde les cahiers de Saint Thomas, quand on regarde ses manuscrits, on voit quand il a étudié la question des passions de Jésus, il a raturé 4-5 fois pour arriver à ce qu'il voulait dire. On va dire que toute sa vie, saint Thomas a étudié ce que c'était que la passion. C'est très curieux et c'est intéressant, ça, parce que c'est la première affectivité. Notre affectivité se traduit comment? En premier lieu, par la passion. À 14 ans, est-ce qu'il n'a pas eu de passion à 14 ans? À 15 ans, le petit volcan qui commence à pousser. C'est beau de voir ça, du reste. Moi, je trouve ça magnifique. Ça pousse d'un élan vital, la passion. Pour saint Thomas, il y a 11 passions. Il y a donc 11 modalités de l'amour. L'amour a 11 visages, au niveau affectif sensible, au niveau passionnel. L'amour a 11 visages. C'est assez extraordinaire, ça. C'est assez étonnant. C'est pas en raison des 11 apôtres qui sont liés à Jésus, puisque le 12e n'est plus, donc il n'a plus d'amour. Mais il est encore passionné. Il y a un amour imaginatif. De la passion, on passe facilement à un aspect romantique. La passion s'éveille devant un bien sensible, devant quelque chose qui nous séduit. On a été séduit par un visage, par un regard. Et ça éveille en nous passion. ça que je cherchais. Je me souviens, voyage en Grèce, je le faisais avec un sculpteur de Genève et avec un groupe d'étudiants de Fribourg et Genève qui ont visité une île et tout d'un coup je reçois un coup de poing dans la poitrine. C'était mon voisin, mon sculpteur, que j'aimais beaucoup. Je dis, regardez cette déesse. Je regarde. Je vois en effet des yeux grecs. Et extraordinaire, je comprends que. Alors, sa passion de sculpteur éveillée. Et c'est vrai, il faut des paysages étonnants comme ça, qui éveillent la passion. Toutes les passions qui sont en nous. Hein. Nous sommes un terrain volcanique. Et les passions de 14 ans ne sont pas celles de 20 ans, ne sont pas celles de 30 ans, ne sont pas celles de 45 ans, ne sont pas celles de 70 ans. Et le terrain volcanique peut s'éveiller encore. Hein. Vous savez, ce dernier volcan aux Aïrs, il y a quelques années, on le surveillait parce qu'il commençait à fumer. Alors on avait mis des spécialistes tout en haut et surveillaient ça avec beaucoup d'intérêt. Puis tout d'un coup, le volcan n'a pas été éructé par le cratère, a éructé par le côté. Donc il s'est mis à cracher sur le côté. Moi ça m'a fait penser exactement aux patients de 70 ans. On surveille, hein, très habitué. Puis tout d'un coup, ça... Terrain volcanique, quoi. Heureusement, on est vivant dans la mesure où le terrain volcanique reste éveillé. Le jour où vos passions sont complètement éteintes, ça glisse. Il n'y a plus rien qui accroche. On peut vous marcher sur les pieds, bonne importance. Terrain volcanique, les passions. Des passions, on passe à un amour imaginatif, romantique. Il y a un amour romantique. C'est vrai que je ne sais pas tellement. Je sais qu'il y a des périodes romantiques dans l'adolescence, mais il y a des périodes romantiques plus tard, surtout, quand on est un peu déçu par la réalité. Alors, il y a un peu de rêve. Vous voyez, c'est l'amour romantique. Et puis, à partir de là, s'éveille un amour beaucoup plus profond, un amour spirituel. Le choix implique cet amour spirituel. Je choisis personne, quand même. Ça s'éveille très vite, hein, cet amour spirituel. Il est présent tout de suite. Je crois que quand le petit enfant sourit, le premier sourire, je crois que le premier sourire de l'enfant implique un certain amour spirituel, d'une présence qu'il aime. Un singe ne sourit pas. Jamais vu ça. Un enfant sourit. C'est la première marque de l'amour sur le visage, dans la sensibilité. Et donc l'amour spirituel s'éveille très vite. On ne peut pas savoir à quel moment. Cet amour spirituel chemine à travers les passions, à travers l'imagination romantique. Et à un moment donné, il est suffisamment fort pour dépasser tout cela, sans le rejeter, restant lié à tout cela. Mais il le dépasse, en étant en présence d'un choix libre, habitable. Et pour que cet amour spirituel s'éveille, il faut le concours de l'intelligence. C'est l'intelligence qui permet à l'amour spirituel de s'éveiller pleinement et de se nouer dans un choix. Le choix implique le lien très fort de l'amour et de l'intelligence. C'est une connaissance affective, le choix. Ah, je le connais. C'est celui-là que j'aime. Et je sais qu'il m'aime. On s'est rencontrés. On a mis du temps, mais maintenant on le sait. Il y a un choix affectif, volontaire. Et cet amour spirituel, il est volontaire. Cette vérité spirituelle, tout simplement. La volonté, je la pose à partir de ce choix spirituel. Et ceci relève de ce qu'il y a de plus profond en moi. L'amour spirituel creuse en moi quelque chose de très profond. Surtout sur les chrétiens. Parce que cet amour spirituel va être uni, assumé par l'agapé, par la charité divine. Ça c'est sûr, il y a un lien entre les deux. Tandis que l'agapé ne s'allie pas à l'amour romantique. L'agapé ne s'allie pas non plus à l'amour passionnel. Il le surveille. Il ne peut pas faire une alliance. Tandis que l'amour spirituel, et c'est toute sa richesse, peut s'allier à l'agapé. À l'agapé surnaturel. À l'amour surnaturel. L'amour divin. Cet amour spirituel porte sur une personne. C'est ça qu'il faut essayer de saisir. Pour le découvrir dans son originalité propre. C'est une personne que j'aime. C'est très vrai, ça. Si vous réfléchissez sur un peu le cheminement affectif de votre cœur, vous avez été arrêté par quelquefois un regard. Un sourire, une parole. Et puis progressivement, vous avez dépassé cela pour atteindre la personne. C'est la personne qu'on aime. Et c'est la personne qu'on choisit. Et qu'on choisit comme ami. C'est une personne vivante. Et on peut l'aimer pleinement que quand on sait qu'il y a la pleine confiance en nous. Et qu'elle nous aime. Il y a une espèce de réciprocité. C'est très très curieux. L'intelligence ne se développe pas du tout comme ça. Je ne demande pas au caillou de m'aimer pour le connaître. Je ne demande pas même, je ne sais pas, à quelqu'un, ça m'intéresse de le connaître, de m'aimer. Non, mais pour pouvoir l'aimer pleinement, il faut qu'il m'aime. Il faut que je sache qu'il m'aime. Vous voyez ça, je crois qu'on touche là à ce caractère très particulier de l'amour qui se développe toujours dans une certaine timidité, dans une certaine pudeur. Le velouté de l'amour, c'est ça, il existe, ça. L'amour n'est pas premièrement violent, non. L'amour n'est pas premièrement violent. Il veut conquérir dans la douceur et dans la tendresse. Et c'est pour ça, parce qu'il a ce velouté, qu'il ne peut avancer que s'il sait que l'autre n'est pas critique. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui vous a critiqué brutalement, avec une ironie un peu méchante, vous a blessé, il y a quelque chose qui reste en vous. Vous ne pouvez plus le regarder de la même façon. Vous avez beaucoup de peine de l'aimer. Faites des actes de charité surnaturelle pour l'aimer. Ça, au point de vue chrétien, on fait ça. Au point de vue humain, on n'a pas envie du tout. Non, tu m'as brisé. Non, c'est fini. Humainement, on a été brisé. C'est curieux, hein, il y a quelque chose en nous qui a été brisé. L'élan de notre cœur. L'élan de notre cœur, qui est ce premier amour, qui se réalise dans la ferveur, il se réalise toujours dans la douceur et la tendresse. L'amour demande cela. Même chez des hommes qui paraissent très durs, en apparence, ils se gendarment, parce que leur cœur est très tendre. Il faut bien faire attention à ça. Vous voyez, ce sentiment de pudeur, on n'est-il pas discret à tout le monde? On n'ouvre pas son cœur à tout le monde. On met très longtemps avant d'ouvrir son cœur. Pour être sûr que c'est quelqu'un qui ne va pas s'en servir contre moi. Qui sera capable de garder un secret. Ah, je dis secret. Alors nous touchons à l'autre aspect, l'autre expérience. Cet amour de choix sur une personne qui implique l'intelligence. Il faut connaître l'autre pour qu'on l'aimait. Mais le connaître, non pas rationnellement, avec intelligence. Une personne, il faut la connaître de l'intérieur. Je la connais uniquement par sa parole, par ses gestes, de l'extérieur. Je ne la connais pas vraiment. Il faut connaître de l'intérieur. Une douce légèreté, comme dit saint Thomas. Lire de l'intérieur. C'est ça l'intelligence. C'est une très mauvaise étymologie, mais c'est admirable. Une douce légèreté. Lire de l'intérieur. L'homme intelligent lit de l'intérieur. Le journaliste, qui est un petit journaliste, pas un grand journaliste, d'un petit journal, eh bien, un petit journaliste lit les événements de l'extérieur, toujours. Tandis que celui qui est intelligent, il lit les événements de l'intérieur. Il regarde de l'intérieur. Il essaie de comprendre de l'intérieur. Mais c'était ce que Socrate faisait toujours. Il montrait à tous ceux qui étaient autour de lui, qui ne savaient pas lire de l'intérieur. In tous les deux, lire de l'intérieur. Pour lire de l'intérieur, il faut aimer. Quand on aime quelqu'un, on le regarde de l'intérieur. Quand on ne l'aime pas, on le regarde de l'extérieur. Eh bien, choisir, c'est un acte d'amour et un acte d'intelligence. Les deux sont présents et inséparables aujourd'hui. On est en présence d'une connaissance affective. Une connaissance qui implique l'amour et une connaissance qui veut aller le plus loin possible. La perspicacité de l'intelligence, elle présuppose l'amour. S'il n'y a pas l'amour, on n'est pas perspicace. On regarde de l'extérieur, comme tout le monde. Et on croit connaître. Et on a eu un regard très extérieur. Tandis que si on aime vraiment, alors c'est autre chose. On a tout de suite cette possibilité de découvrir des petits sentiers. C'est comme ça. Hein. Au point de vue graphique, les gens qui ne connaissent pas, hein, ils prennent que les renseignements. Que le renseignement extérieur, les grandes routes, les autoroutes. Et quand il y a trop de monde sur les autoroutes, on met itinéraire bis. Et cet itinéraire bis, il faut conduire des cul-de-sac, parce qu'on ne connaît pas. Celui qui connaît dit, non, il y a cette petite route merveilleuse et ravissante. Elle est même plus courte. Les petits sentiers. Bien. Quand on connaît quelqu'un, on connaît les petits sentiers. Les autoroutes, on les laisse pour ceux qui regardent de l'extérieur. Cette connaissance affective qui choisit un fruit, le secret. J'aime beaucoup de faire la philosophie du secret. C'est très important aujourd'hui de faire la philosophie du secret pour comprendre les arracheurs de secrets. Il y a des arracheurs de secrets aujourd'hui. Il faut, faut en avoir peur du reste, quand on a de vrais secrets. Un secret, qu'est-ce que c'est qu'un secret? C'est quelque chose de très grand, un secret. Rappelez-vous, sans faire de psychanalyse, rappelez-vous le premier secret dans votre vie d'adolescence. La première fois où un grand frère, une grande sœur, un parent, une mère, un frère, ou quelquefois un prêtre, un professeur, que vous aimiez, vous avez dit, je te dis ça à toi, et c'est un secret. C'est très curieux, ça, hein? C'est un secret. Et ce secret a eu cette force très étonnante de vous nouer à celui qui vous a communiqué ce secret. Et bien un nœud. Mais quand on dit que l'Esprit Saint, c'est le nœud d'Exus. Le nœud, c'est le secret entre le Père et le Fils. Et c'est le secret c'est mon secret. Mon ami, c'est mon secret. Et je mets longtemps avant de le dire. Quand quelqu'un commence à aimer un autre, on devine. Socrate disait qu'il avait reçu des dieux un don particulier pour découvrir tout de suite les jeunes qui s'aimaient. Je crois qu'il ne faut pas tellement de dons de Dieu. Il suffit de regarder, on s'aperçoit tout de suite. Quand on enseigne à des jeunes entre 20 et 25 ans, je vous affirme que je voyais tout de suite ceux qui s'aiment. Facile à voir, très facile à voir. Dans des sessions philosophiques, on s'aperçoit tout de suite ceux qui s'aiment. Parce qu'ils ne suivent plus de la même façon. Ils suivent, non pas par intérêt direct de la vérité, mais avant tout pour se retrouver ensemble. Ce secret, c'est curieux, un secret. Eh bien, si j'essaie de comprendre ce que c'est que le secret, c'est le fruit d'une connaissance aimante, d'une connaissance affective. Il n'y a pas de secret en mathématiques. Il n'y a pas de secret en philosophie. Alors on a inventé des initiations. Et c'est en religion. C'est pas une religieuse, hein. C'est pas une religieuse, il peut y avoir des secrets. La loi de l'arcane. Les premiers chrétiens. Le secret pour un chrétien, c'était l'Eucharistie. C'était le secret. Caché à ceux qui ne croyaient pas. C'était un secret. Le secret, c'est le fruit d'une connaissance aimante. Une pure connaissance est universelle et n'a pas de secret. Une pure connaissance. C'est vrai. La connaissance demande d'être universelle. Communiquer à tout le monde. À cours de mathématiques, on communique à tous ceux qui sont suffisamment intelligents pour suivre. Tandis qu'un secret, il se dit à une seule personne. Si j'avais commencé mon cours en vous disant, je vais vous donner des secrets. Vous auriez tous souri. On ne donne pas des secrets à 20 personnes, 30 personnes, 40 personnes, 50 personnes. Encore moins à 500 000 personnes, sauf quand on est entre chrétiens. Parce que l'Esprit Saint peut alors faire, en communiquant quelque chose que tout le monde peut entendre, quelques-uns le reçoivent d'une manière telle qu'ils le reçoivent comme un secret. Très très curieux, ça. Mais c'est un phénomène, là je compare, différent de la prédication avec l'enseignement. Dans la prédication, on communique à tout le monde, mais il y en a certains qui le reçoivent comme un secret. Et je vais vous le dire après. Quelquefois en philosophie, c'est très rare. Quelquefois en philosophie. La dernière session de philosophie que je viens de faire à Saint-Léonard, à la fin de la session, je ne dis pas qui, ce que c'est. Quelqu'un m'a dit, vous m'avez révélé un grand secret. C'est très touchant. Une jeune fille très déjà ayant eu une grande expérience de la vie. Elle était comme bouleversée. Vous voyez, la philosophie peut, quand cette philosophie touche, et la théologie encore beaucoup plus, à cause de la foi. Parce que la foi, elle est la même pour tous et est un secret pour chacun d'entre nous. Chaque parole de l'Écriture est donnée à tout le monde. Et chaque parole de l'Écriture peut devenir un secret pour chacun d'entre nous. Alors ça, c'est le très grand mystère de la foi. Qui n'est pas une connaissance mathématique, qui n'est pas une connaissance scientifique, qui est une connaissance personnelle. Et donc qui nous lie à Dieu par une parole qui est commune et qui devient un secret. C'est très important de comprendre ce que c'est que le secret. Et surtout dans une société comme la nôtre qui ne respecte plus les secrets. Qu'est-ce qui respecte les secrets ? époux et épouse. Le jour où on ne respecte plus le secret, il y a comme une trahison. Qu'est-ce que c'est que trahir? C'est communiquer un secret à quelqu'un qui est incapable de recevoir. C'est ça, trahir. Et la trahison brise ou tue l'amitié. C'est le choix amical qui lie deux amis, et c'est la trahison, la communication du secret à quelqu'un qui est incapable de le recevoir. Non seulement incapable, mais quelquefois qui est ennemi et qui cherche à connaître, à arracher des secrets. Et si on est faible, on dirait. Et pendant la guerre, on a vu ça, dans le maquis, on savait bien. C'est une des paroles importantes de Sartre, ça. De temps en temps, il a eu des paroles intelligentes, c'est peut-être ça qui l'a sauvé. Il a dit une parole sans savoir que c'était une parole dite par les pères de l'Église. Il l'a retrouvée. Dans son théâtre, mort sans sépulture, Sartre dit cette chose très étonnante, que quand on a arraché les secrets par la torture, et c'est vrai, la torture aidait pour arracher les secrets, quand on savait que quelqu'un appartenait à une ligne d'espionnage, quand on savait quelqu'un qui avait posé des mines dans tel ou tel terrain, que l'armée devait y passer. Alors la torture était faite pour arracher les secrets. On voit très bien ce que ça veut dire. Et alors Sartre souligne, quand on arrachait les secrets de quelqu'un, cette personne n'avait plus aucune force. Le secret engendre le silence, et le silence fruit du secret. C'est notre force. Plus que de garder des secrets. Des secrets importants, voyez. C'est ça qui nous dope. Mais dope spirituellement, pas extérieurement. Garder des secrets, ça nous donne une orientation. Ça nous permet d'aller plus loin. Oui, ça mobilise nos forces. Et par le fait même, ça nous galvanise. C'est-à-dire quelque chose de très particulier. On garde un secret. On est responsable. Parce qu'on garde un secret. C'est le fait de garder un secret qui nous fait comprendre notre responsabilité. C'est pour cela que c'est garder un secret qui nie notre personnalité. Je crois que quelqu'un qui n'a jamais gardé de secret important dans sa vie, il n'y a rien qui nourrit en lui. Et c'est pour ça aussi que quand on fait porter des secrets à des gosses qui ne sont pas encore assez âgés, c'est trop lourd pour eux. Il y a quelque chose qui empêche qu'ils grandissent, parce qu'ils portent des secrets. La psychanalyse peut avoir quelque chose de juste quand elle arrache les faux secrets. Mais pas les vrais. C'est pas commode de faire le discernement entre les vrais secrets et les faux secrets. Le faux secret nous replie sur nous. Le vrai secret nous noue avec un autre, dans le lien d'amour avec quelqu'un d'autre. Il nous permet de rester en communication avec lui. Voyez, le choix, le secret, la trahison, eh bien cela nous met en présence d'une connaissance personnelle qui nous lie avec une autre personne, et qui nous permet de comprendre mieux ce que nous sommes et ce que l'autre est pour nous, dans l'ordre de l'amitié. Le secret que nous portons, c'est l'ami, et c'est un secret personnel, substantiel, qui est capable de mobiliser toute notre vie, parce qu'il nous finalise, et est capable, à partir de là, de nous faire vers des actes héroïques. Les martyrs portent un secret qui leur donne cette force du martyr. s'il ne portait pas un secret, il ne pourrait pas subir les souffrances du martyr. Je m'arrête maintenant. D'aller plus loin. Si vous n'avez aucune question, nous continuerons.